Le fond de la grande mosquée de Kairouan est un des rares cas où il est possible de suivre l'histoire d'une collection sur plusieurs siècles. Ses origines remontent probablement au début de l'installation musulmane à Kairouan, deux manuscrits en particulier pouvant prétendre remonter à la première moitié du 8e siècle. La collection est formée de deux ensembles, d'une part des ouvrages de sciences coraniques, principalement juridiques, et de l'autre, une Bibliotheca Coranica largement similaire à celle que nous connaissons à Damas, Fustat ou Sanaa. Certes, il serait difficile de parler d'une bibliothèque au sens où nous l'entendons, dans la mesure où une partie non négligeable des livres a cessé d'être utilisable ou utilisée, c'est toujours difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre, dès le Moyen-Âge. En tous les cas, pour ce qui est des Corans, ils ont cessé d'être utilisés à une date assez précoce. Mais du moins, cette bibliothèque permet-elle de remonter jusqu'au XIe siècle, ce qui représente pour Kairouan un moment d'apogée, mais aussi de ruine. La fin du Xe siècle est marquée par le départ des Fatimides vers l'Égypte qu'ils ont conquise depuis l'Ifriqiya, à l'aide des contingents berbères qui les soutenaient. Parmi ces derniers, bien sûr, on comptait les Irides, à qui les Fatimides ont laissé ensuite le soin de gérer leurs affaires, tandis qu'eux-mêmes s'installaient au Caire nouvellement fondé. L'époque est agitée. Kairouan reste un fief malikite, et la coexistence entre une élite chiite et une population sunnite ne va pas sans heurts. Le milieu des savants malikites reste en particulier hostile au pouvoir en place. Pourtant, les Irides semblent aussi avoir enrichi la Bibliotheca Coranica de la Grande Mosquée. De nouveaux manuscrits sont en effet constitués waqf au début du XIe siècle, mais nous verrons qu'il s'agit dans un cas d'un accroissement indirect. Il faut rappeler à ce point que les Irides, associés aux Fatimides, étaient bien sûr chiites, et donc leur relation avec le milieu des oulémas posait des problèmes assez souvent. La présence d'Irides est particulièrement remarquable au sein de cette collection de la Grande Mosquée, puisque trois membres importants de la famille sont représentés. Deux princesses, Malal et Al-Ulu, ont chacune offert un Coran en plusieurs volumes. Pour la première, Malal bint Mansour ibn Yusuf al-Sanhaji, qui est morte en Rajab 414, c'est-à-dire en septembre-octobre 1023, il s'agit d'un exemplaire en 30 volumes qui a été remis à la Grande Mosquée par l'entremise du Qadi Abdelrahman ibn Muhammad ibn Abdallah ibn Hashim. Nous avons la chance d'avoir l'acte lui-même qui figure sur la page de droite et qui nous rappelle donc cela. La copie, comme vous le voyez, est de format oblong dans une écriture dont les parallèles sont plutôt du IXe siècle, un style que j'ai appelé D1, mais qui, pour la partie orientale du monde musulman du moins, a cessé depuis quelque temps d'être en usage. La mise en page et les dimensions même du manuscrit, puisque les feuillets mesurent 27,5 cm sur 36,5 et le texte, comme vous le voyez, occupe 7 lignes à la page, indique qu'il s'agit d'un exemplaire de luxe pour lequel on n'a pas lésiné ni sur la matière première, le parchemin, ni sur l'écriture, ni sur l'ornementation. Si nous retenons le parchemin comme base pour évaluer le coût des livres, les 200 mètres carrés de parchemin qui ont été nécessaires à la réalisation des 30 juz placent le Coran d'Malal parmi les copies les plus onéreuses que nous connaissons. Nous sommes moins bien informés sur le second manuscrit, offert par une princesse Zirid également. Il est en effet, malheureusement, réduit à l'état de fragments qui contiennent fort heureusement des notes, celles que vous voyez sur l'écran par exemple, indiquant que les volumes, on peut présumer qu'il s'agit d'un Coran en 30 juz, avaient été constitués waqf par Al-Ulu bint Badis, la sœur donc du souverain Zirid Al-Mu'iz ibn Badis, en faveur du masjid de Ibn Abd al-Muttalib de Bab Salam en Jumada 2 428, c'est-à-dire en avril 1037. Il s'agit de nouveau d'une copie de format oblong, de dimension un peu plus modeste que le Coran d'Malal. dans leur état actuel, et vous voyez qu'il s'agit vraiment d'un Coran à l'état de fragment, alors que l'autre était quand même dans un état plus favorable, dans leur état actuel, les feuillets de parchemin mesurent 17 cm sur 28,5. Même s'ils ont perdu un certain nombre de centimètres carrés, ils étaient de toute façon, dès l'origine, plus petits que celui d'Umm Malal. Leur présence parmi des manuscrits qui étaient conservés dans la grande mosquée ne doit pas surprendre. Le Waqf est en faveur d'un masjid qui est qui est à la porte de Kairouan. Donc on peut se demander pourquoi il se retrouvait avec les manuscrits de la grande mosquée. C'est tout simple. On a d'autres exemples qui correspondent tout simplement à un mouvement de rapatriement des copies coraniques initialement déposées dans des mosquées périphériques. L'époque zirite est marquée par l'invasion des Banu Hilal, et cette invasion provoque la ruine de Kairouan et un effondrement démographique qui réduit la ville à peu de choses. Les murailles sont beaucoup trop grandes pour la ville et donc on se concentre dans la partie centrale. Les mosquées périphériques sont abandonnées, tombent en ruine et donc il n'est pas possible d'y laisser des copies du texte sacré. J'ai laissé pour la fin le dernier Coran princier zyride, celui qui est associé au nom du souverain zyride Al-Mu'izz ibn Badis, qui eut un long règne de 1016 à 1062. Comme c'était le cas pour les manuscrits précédents, il s'agit d'un exemplaire de format oblong sur parchemin, copié à raison de 5 lignes à la page sur des feuillets de 22,5 cm sur 31,5 cm, dans un style dont les parallèles, cette fois encore, datent plutôt du IXe siècle, un style que j'ai appelé Détroit. Cette luxueuse copie, richement enluminée, est accompagnée par un document d'une valeur historique tout à fait exceptionnelle. En tête des volumes figurait en effet une déclaration du souverain rédigée à la première personne du singulier, peut-être donc de la main même d'Al-Mu'izz, qui contenait une profession de foi sunnite ainsi qu'une malédiction lancée contre les Fatimides. C'est-à-dire que ce Coran portait en quelque sorte le ralliement de Al-Mu'izz et des Zirides au sunnisme et la répudiation du chiisme, et il se terminait donc par un acte très bref constituant ce Coran en waqf en faveur de la grande mosquée de Kairouan. À côté de ces trois manuscrits, plusieurs autres copies conservées dans le fond de la grande mosquée sont associées à des membres de l'entourage de la famille Zyride, c'est-à-dire une sorte de deuxième cercle. Un premier a été constitué waqf par un membre du groupe des ulamas kairouanais. Il s'agit de Imran ibn Ahmad ibn Imran al-Balawi, qui fit enregistrer sa donation en Rabi 1er 413, juin 1022, par le cadi Abdarrahman ibn Muhammad ibn Abdallah ibn Hashim. Le manuscrit, également copié sur du parchemin, est copié donc sur des feuillets de format oblong, de nouveau, de 15 cm sur 21,5, c'est-à-dire qu'il est dans les Corans de plus petite taille, comme celui probablement d'Umm al-Ulu. Et il est écrit à raison de 6 lignes à la page, de nouveau dans un style voisin de ce que j'appelle D1, comme le Coran d'Umm Malal, encore une fois. Malgré ses dimensions plus modestes, le manuscrit est clairement une copie très soignée, avec des enluminures au début et à la fin de chaque volume. Très différents sont les autres manuscrits, tant d'un point de vue codicologique qu'en raison de leur écriture. Le plus spectaculaire, dont je parlerai plus en détail par la suite, a été réalisé à la demande de Fatima, la nourrice, Ravena, d'Al-Mu'izz. C'est la raison pour laquelle on le connaît sous le nom de Coran de la nourrice. Fatima était au service des Zirides. C'était également le cas de Anbar, un mamelouk d'Al-Mu'izz ibn Badis, et du Kaïd Ubaid, un esclave du même souverain. Dans les trois cas, l'écriture se rattache au nouveau style, c'est-à-dire un style qui est complètement différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent, ce qui est également le cas du Coran de la nourrice. D'un point de vue codicologique, on distingue également des changements, puisque deux copies sont de format vertical, alors que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent est de format oblong, et l'un des manuscrits, celui du Qaïd Obaid, est transcrit sur du papier. Ce Coran, dont l'acte de Waqf est endommagé, est daté de Rabi II, 400, et vous voyez, il y a un grattage juste sur le chiffre des dizaines et peut-être des unités. On voit simplement à la fin le chiffre des centaines, donc on sait que c'est 400, mais bien sûr, c'est trop vague pour que nous puissions aller plus loin. C'est probablement entre 1016 et 1062, les dates du règne de Al-Mu'izz, mais disons qu'on ne peut pas aller plus loin, et le personnage, je n'en ai pas trouvé trace par ailleurs. Ce manuscrit est donc copié sur des feuillets de papier de format oblong, donc on reste dans ce format archaïque, disons, de 10 cm et demi sur 16. Il est copié à raison de 5 lignes à la page, ce qui implique qu'il s'agissait d'un exemplaire en plusieurs volumes. C'est également le cas du Coran de Anbar. Alors, le texte, vous le devinez dans la partie inférieure du feuillet. Les 7 volumes qui le constituaient ont été copiés sur des feuillets de parchemin, donc on reste sur ce matériau ancien, entre guillemets, mais de format vertical, et donc là, c'est une concession à la modernité. Ces dimensions sont plus importantes. Avec ses 28 cm sur 18,5, il n'est pas très éloigné des dimensions du Coran de Umm al-Ulu. Mais comme le texte est écrit de manière plus dense, à raison de 18 à 21 lignes à la page, il occupait bien sûr moins d'espace et demandait moins de parchemin. L'acte de Waqf lui-même est daté de Dhul-Hijjah 423, novembre 1032. Le Coran de la nourrice est quant à lui copié, comme le précédent, sur du parchemin en format vertical. Comme on le constate, nous avons donc deux groupes de manuscrits. D'une part, les 3 copies princières et le Coran d'Al-Balawi, sur parchemin et de format oblong, copiés dans des styles, quand l'information est disponible, puisque le Coran d'Umm al-Ulu n'est pas tout à fait, ne permet pas de savoir quelle était l'écriture, donc copiés dans des styles qui étaient surtout employés au IXe siècle. Et de l'autre, nous avons un ensemble de manuscrits moins homogènes, sauf en matière d'écriture. Le parchemin et le papier ont été employés. Les formats oblongs et verticaux coexistent. Comment expliquer ces différences? Est-ce qu'il faut chercher du côté de la sociologie? Ou bien est-ce qu'il s'agirait de différences qui tiendraient à l'activité de différents ateliers, certains ateliers travaillant, si j'ose dire, à l'ancienne, et d'autres, en revanche, étant des ateliers davantage à la mode, avec des écritures plus proches de ce qui se faisait ailleurs. Le premier groupe de manuscrits a, par le passé, été présenté comme un exemple du côté archaïsant de la production locale des Corans en Ifriqiya. C'est le thème, le Maghreb est toujours un petit peu en retard sur ce qui se passe à l'Est, donc ici, avec 2 siècles de retard, on continue à utiliser les mêmes écritures, alors qu'au Proche-Orient, on avait cessé de le faire. Rappelons qu'un manuscrit qui est conservé de nos jours à Dublin montre que le grand calligraphe Ibn al-Bawwab achevait en 1000, c'est-à-dire pratiquement au même moment, une copie du texte coranique dans une écriture qui est pratiquement identique à celle que nous connaissons de nos jours. Cette explication de l'archaïsme supposé des Kérouanais me paraissait assez peu satisfaisante, les caractéristiques générales des 4 manuscrits me rappelant très fortement celles de copies de textes coraniques datées du IXe siècle. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait analyser le parchemin des Corans d'Umm al-Malal, d'Al-Mu'izz et d'Al-Balawi par 2 laboratoires différents afin de disposer d'une base solide pour la datation. Les résultats donnés ici avec 95% de probabilité, vous savez que pour le carbone 14, on joue avec les statistiques et les résultats ne sont pas sûrs à 100%. Voilà les résultats donc bruts que j'ai reçus pour les 3 manuscrits et vous voyez que les dates ne sont absolument pas compatibles avec une date à la période zyride. Un échantillon pris dans un autre manuscrit de la collection, constitué waqf par une certaine Fadl, une affranchie d'Abou Ayyoub Ahmad ibn Muhammad, qui a offert ce volume en Muharram 295, c'est-à-dire en octobre-novembre 907, a également été daté de cette manière. Voilà le Coran de Fadl, pour que vous voyez que son écriture, son format, le matériau du parchemin ressemble très fortement à celui de ces trois Corans zyrides. L'analyse codicologique et paléographique donc indique une parenté et, comme on le voit, les dates qu'il ne faut pas prendre littéralement, hein, c'est plutôt une indication, mais les dates de l'analyse du carbone 14 permettent d'arriver à des conclusions. Pour le XIe siècle, je n'ai malheureusement pas beaucoup de résultats à mettre en parallèle, puisque je n'ai pas fait d'analyse du Coran de Anbar, qui, lui, est daté par un acte de waqf, qui nous donne quand même une bonne possibilité de dater. En revanche, avec le Coran de la nourrice, qui est tout en bas, avec le Coran de la nourrice, donc, nous disposons d'une date qui figure dans un colophon, c'est-à-dire que nous avons non pas la date à laquelle le manuscrit a été offert, ce qui n'est qu'un terminus ante quem, c'est-à-dire que nous savons que le manuscrit existait au moment M, mais bien sûr, il a pu être copié l'année précédente, un siècle avant, trois siècles avant. Le waqf est simplement une constatation de son existence à un moment donné, alors que pour le Coran de la nourrice, la date de 1020 figure dans un texte qui dit que la copie a été exécutée par un tel en telle année. Donc, là, nous avons une quasi-certitude que le manuscrit était bien là. Et donc, quand on a fait dater le parchemin de ce manuscrit, on a obtenu un résultat donc, qui donne une fourchette comprise entre 871 et 986. Et cette comparaison doit être faite non pas tant avec le précédent, mais surtout avec tout le groupe initial. On voit que la datation au XIe siècle, au début du XIe siècle, de ces trois manuscrits est tout simplement impossible. Donc, que s'est-il passé? Pourquoi ces manuscrits anciens? Alors, la date, après ça, restera fixée en fonction de critères paléographiques, en utilisant les données de l'histoire de l'art, mais cette datation sera forcément antérieure au XIe siècle. Mon hypothèse, c'est qu'il s'agit de manuscrits qui ont été récupérés dans un autre endroit et réutilisés par les Zyrides. Alors, bien sûr, il y a un épisode qui est tout récent, au début du XIe siècle, qui offre une possibilité d'explication, c'est la conquête de l'Égypte par les Fatimides, à laquelle les contingents berbères que je signalais au départ ont pris part. Et à cette occasion, il n'est pas impossible qu'ils aient, dans leur butin, récupéré des manuscrits qui étaient impressionnants et les aient transportés à Kérouan, puis offerts dans des conditions qui restent à examiner. Donc, nous avons ce côté archaïque qui finalement s'évanouit, puisque les manuscrits sont plus anciens, et je passe maintenant au Coran de la nourrice, qui, nous allons le voir. Voilà. Le Coran de la nourrice, qui, lui, représente une production du début du XIe siècle, de même probablement que le Coran de Anbar, même si ce dernier n'est daté que par un waqf. Nous le connaissons depuis longtemps, ce manuscrit, depuis 1914, pour être précis, date de la première publication où on le mentionne. Les informations à son propos sont aussi remarquables que le manuscrit lui-même. En effet, en tête des volumes figurent deux textes, ou bien l'un ou bien l'autre. Enfin, ça n'est pas toujours très facile de savoir, parce que comme le manuscrit est en petits morceaux, on n'a pas encore, disons, reconstitué les volumes, ou du moins ce qu'il en reste. Et donc la position de feuillet comme celui que vous voyez sur l'écran n'est pas très claire. Il y a en tous les cas deux formulations de ces textes qui nous renseignent sur le processus de réalisation de cette copie en 60 volumes. Donc là aussi, c'est une originalité par rapport au cas précédent où nous avions affaire à des djous, c'est-à-dire des Corans en 30 volumes, ou dans le cas du Coran de Anbar, un Coran en 7 volumes. Là, nous avons un Coran en hizb, c'est-à-dire 60 volumes. Les deux textes sont en tous les cas l'œuvre d'une femme, une certaine Dora, la secrétaire, Katiba, hein, qui a été chargée de rédiger ce texte que vous avez sous les yeux, dans une écriture qui n'est pas tellement maghrébine, qui serait plutôt orientale à première vue. Le premier des textes est une sorte de colophon. Je dis une sorte de colophon parce que généralement, le colophon est copié par la personne qui a fait le travail, qui dit « j'ai écrit ceci en telle année ». Là, c'est une troisième, c'est un tiers, Dura, qui précise donc que la copie a été achevée en 410, c'est-à-dire 1020, par un certain Ali ibn Ahmad al-Warraq, hein, qui est mentionné sur le texte, que je le retrouve. Je suis mal placé pour le voir. Enfin bon, croyez-moi, son nom apparaît sur le volume, qui a, à moins que j'ai interverti avec l'autre texte, c'est possible. En tous les cas, le texte nous précise qu'il a ajouté les points voyelles, qu'il a réalisé les enluminures et qu'il a relié les volumes. Le deuxième document, et donc c'est peut-être celui-ci, est plutôt le côté waqf, c'est-à-dire qu'on enregistre le don de la copie à la grande mosquée de Kérouan, et la personne qui donne le manuscrit est Fatima, nourrice, Hadina, du Zirid Amu Manad Badis, hein, c'est-à-dire le souverain qui est le père d'Al-Mu'iz. Une partie de l'information est reprise dans une inscription gravée sur un coffre en bois que nous verrons plus tard, dans lequel était conservé le manuscrit. Ce dernier est composé de 60 volumes, chacun correspondant à un hizb, on l'a vu, et d'une taille absolument impressionnante. Il s'agit d'une folio de 44,5 cm sur 30 en parchemin, avec 5 lignes de texte à la page. C'est un manuscrit géant. De ce fait, le manuscrit occupait un nombre considérable de feuillets. D'après une estimation que j'ai faite, les 60 hizbs du manuscrit comptaient à l'origine un total de 2800 feuillets, représentant 380 mètres carrés de parchemin. On parle de chiffres énormes. Il s'agit de troupeaux entiers qui ont été transformés en parchemin. L'écriture appartient au nouveau style, mais dans une version tout à fait spectaculaire qui joue pleinement sur les oppositions entre pleins et déliés. Mais la comparaison des feuillets permet de reconnaître plusieurs mains. Pour réaliser cette copie hors norme, Ali ibn Ahmad, le Warraq qui est mentionné dans le colophon, n'a pas été seul à travailler. Il a eu avec lui des collaborateurs. On va voir quelques exemples. On reconnaît une certaine homogénéité entre les différentes contributions. Les lettres ou parties de lettres les plus grasses, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la ligne d'écriture, ces parties de lettres donc ont été peintes, en ce sens qu'avec le calame lui-même, on n'aurait pas réussi. Là, c'est avec le calame qu'on a tracé cette ligne. Mais bien sûr, pour faire ces énormes têtes de lettres, il a fallu peindre la lettre. Et dans certains cas, on voit les coups de pinceau ou de calame qui ont été donnés pour noircir des surfaces de, on parle de centimètres carrés. Les différents intervenants ont leur propre interprétation d'un répertoire graphique de base qui a dû être fixé d'un commun accord, dans lequel les têtes de lettres comme le mim, là vous avez un exemple... un mime, voilà, vous avez un mime ici. Donc vous voyez, ces lettres-là, ou le waou à côté, se terminent par une espèce de pointe qui, bien sûr, supposait un effort supplémentaire de la part du copiste. Donc cette terminaison en pointe est caractéristique. Les ligatures, c'est-à-dire la liaison des lettres par en dessous, est assez volontiers marquée par des sortes de petites indentations qui passent par en dessous. Dans le cas du Aïn en particulier, on a pratiquement une série en dents de scie, et l'alif final que vous voyez ici est avec une sorte d'ergot qui passe sous la ligne. Très caractéristique est également la façon d'écrire le Noun, hein, avec trois segments, deux plus gras, reliés par un trait plus fin. Deux groupes de feuillets, me semble-t-il, peuvent être distingués. D'une part, ceux qui présentent la variante mince de l'écriture, comme celui que vous avez sur l'écran. de l'autre ceux où apparaît en revanche une version grasse. Dans la première, une bonne partie des lettres ont souvent été tracées avec un calam, certes relativement épais, mais d'un seul coup. C'est spécialement vrai pour le noun final que je viens de montrer, où le contraste entre les différents éléments n'est pas trop marqué. Seules certaines teintes de lettres, comme je l'ai dit, pourraient avoir été repassées, je crois que c'est le cas ici, pour atteindre l'épaisseur souhaitée. Sur quelques feuillets, on a même une version plus mince, qui est généralement sans vocalisation, ce qui pourrait être l'indice que c'est un autre intervenant qui a été chargé de cela. La variante grasse est représentée par cette main, qui emploie bien sûr le même répertoire de formes, mais avec une densité de l'écriture différente sur la ligne et sur la page. Et il y a peut-être à distinguer à l'intérieur de ce groupe trois intervenants. Vous retrouvez donc les caractéristiques habituelles. Vous voyez là, par exemple, un mime. Vous voyez cette façon de marquer la ligature entre les lettres avec cette espèce de petit retour par en dessous, ou ici. Et vous voyez, sur certaines des lettres, on distingue les coups de calam ou de pinceau qui ont été donnés. Regardez les mimes. On voit qu'il y a des endroits qui sont un peu plus marqués. Là, il y a sans doute une retouche qui a été faite pour compléter la noirceur de la lettre. Ou encore ici, hein, on voit bien qu'il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises pour atteindre ce résultat. Donc, c'est cette main, plus marquée, qui est associée à une autre main qui est différente. Vous le voyez, par exemple, la forme du noun. Les autres écrivent le noun avec un segment, un trait qui fait un angle et un autre segment plus gras. Ici, on suit, il y a une espèce de courbure qui indique très clairement que c'est un autre personnage qui a travaillé sur cette partie du manuscrit. Suivante. Le manuscrit est également décoré. Je dois ajouter qu'il, comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pratiquement pas de diacritique. L'écriture est là. On n'a pas les points qui distinguent. On a la vocalisation qui est en rouge. C'est la vocalisation moderne qui est utilisée en rouge, comme on le faisait autrefois avec les points voyelles rouges, justement, à l'époque de ces manuscrits archaïques dont j'ai parlé au départ. Et puis vous avez également en couleur les Shadda, le Hamza, etc. Donc c'est une autre personne ou à une autre étape que l'on a ajouté ces voyelles. Et dans le colophon, je le disais, il est dit que le texte a été vocalisé à cette époque. Donc c'est quelque chose de tout à fait contemporain. L'enluminure occupe une place importante dans le manuscrit. Les versets ne sont généralement pas distingués. On a de temps à autre une rosette, mais on a l'impression que c'est plus une matière de décision au hasard que véritablement quelque chose de systématique. En revanche, les groupes de versets, ceux de 5 et de 10, sont signalés généralement en marge de gouttière. Et les titres des sourates également sont indiqués. Les décors en pleine page précèdent le texte. Et là encore, on a l'impression qu'il y a plusieurs enlumineurs qui ont été associés à leur réalisation. Le schéma général est celui que vous voyez ici, c'est-à-dire que vous avez un cadre et puis un rectangle central décoré. Très souvent, la partie qui sépare le cadre de cet élément central est laissée blanche, mais parfois, comme c'est le cas ici, il y a un décor à l'encre qui a été ajouté. Les vignettes, c'est-à-dire ces décors qui sont projetés depuis l'enluminure en direction de la marge, sont très souvent simplement sur le côté extérieur, mais parfois, comme c'est le cas ici, vous en avez trois, c'est-à-dire une sur chacun des côtés, sauf bien sûr sur le côté qui est proche de la marge de fond, c'est-à-dire là où il y a la couture. Alors, on a ici un exemple des bordures. Les bordures sont un indicateur probablement de la personne qui a fait ces enluminures. Ici, on a un motif en petit triangle qui est déjà connu au IXe siècle. Donc ça, c'est un signe d'archaïsme. Mais on a d'autres enluminures. d'autres enluminures où on a des choses qui sont beaucoup plus modernes. Hein. Alors, vous voyez, ici, c'est un enlumineur qui ne met une vignette que à l'extérieur et qui ne dessine rien dans l'espace entre les deux éléments. En outre, comme vous le voyez, les dimensions des enluminures varient considérablement. Tantôt, elles essayent d'occuper tout l'espace, tantôt, comme c'est le cas ici, elles ont l'air un petit peu perdues sur ces pages gigantesques. Voici un autre exemple. Alors là, il faudrait bien sûr étudier plus finement que je ne le fais maintenant le décor de ces vignettes. Il y a plusieurs façons de les former. La base est toujours la même. Ce sont des éléments végétaux arbitraires qui sont composés de manière à créer cette espèce de bouquet symétrique avec toujours à la base deux feuilles largement ouvertes qui se déploient pour soutenir le reste de la vignette. Alors, donc, je vais présenter rapidement le manuscrit, l'écriture, les décors, et je voudrais maintenant faire quelques remarques pour conclure, parce que je crois que je suis en train de dépasser le temps qui m'est imparti. Je voudrais souligner la disproportion qui existe entre le Coran de la nourrice et les trois premiers manuscrits que j'ai mentionnés. Les manuscrits princiers sont des manuscrits qui sont des manuscrits de belle taille. Hein, j'ai dit, le Coran d'Umm Malal a demandé quelque chose comme 240 mètres carrés de parchemin. Je parle en mètres carrés parce que nous ne savons pas très bien comment le parchemin était coupé. Nous ne savons donc pas quel était exactement le nombre de bêtes qui devaient être transformées en parchemin, mais ça vous donne une idée. Donc 240 mètres carrés, le Coran de la nourrice, 380. Une personne donc, qui était simple nourrice, donc une personne de l'entourage princier, mais qui n'était pas un personnage de premier plan, avait-elle des moyens beaucoup plus considérables qu'une princesse de la famille régnante? C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Elle a fait là un investissement absolument considérable, le parchemin, les copistes. Je viens de montrer qu'il y avait toute une équipe qui a travaillé pour réaliser ce Coran. J'ai parlé des copistes, j'ai parlé des enlumineurs. Je n'ai pas parlé des relieurs, puisque les reliures ont toutes disparu. On sait un peu à quoi elles ressemblaient, puisque nous avons un texte qui nous mentionne la soie qui avait été utilisée pour les reliures. Mais donc, il y avait véritablement toute une équipe qui a produit ces 60 volumes, une dépense qui semble tout à fait, encore une fois, énorme par rapport au statut social de cette dame. Alors, bien sûr, on peut penser à un exemple antérieur qui remonte au IXe siècle, celui des officiers turcs de Samarra qui aussi ont offert des manuscrits somptueux alors que leur statut était inférieur. C'est vrai que leur position dans la société était différente dans la mesure où, militaires, ils avaient sans doute les moyens de mettre la main sur des sommes importantes. Donc, même si on peut penser à cet exemple, je pense que c'est un faux parallèle, il serait peut-être plus judicieux de penser que Fatima a pu, en fait, agir comme, disons, en délégation, c'est-à-dire qu'elle aurait été chargée par le souverain lui-même d'offrir ce Coran, alors qu'il était encore chiite, et de le présenter à la grande mosquée dans le cadre de ses manœuvres de rapprochement avec le milieu des oulémas malikites, avec lesquels, visiblement, les Irides souhaitaient nouer de bonnes relations, comme le montrent les autres Corans qui ont été offerts à la grande mosquée. Merci.